Bon, dans les discussions voilà, qui ont été favorisées par Pierre, par Resc aussi, vous pouvez peut-être avoir quelques questions émergentes sur les divers sujets que vous avez pu aborder et qu'on pourrait traiter collectivement.
La question de la violence.
Je vais faire une petite intervention par rapport à la question du monsieur Levin sur la violence. Donc moi, dans mes souvenirs, parce que ça fait longtemps que je suis au front, je me rappelle ici à Rodez, d'une, et il y en a certains d'entre vous qui y étaient, d'une réunion des semenciers où ça avait été assez violent, puisqu'ils avaient saturé Rodez et puis ça avait un peu frité avec les forces de l'ordre. Par contre, de toutes mes expériences d'affrontement avec les forces de l'ordre, dans une position, moi personnellement, totalement pacifique, parce que je ne suis pas non-violent de naissance, hein. J'ai vécu dans Marseille, j'ai été hyper violent, je suis parfois encore dans mes propos, souvent, j'aime pas qu'on marche dans mon jardin, n'importe où, et ça m'arrive d'avoir des réactions encore de pulsions. Par contre, je n'ai jamais vu un comportement comme j'ai vu sur le barrage là-bas, hein, sur cette zone-là, avec une violence inouïe de la part des forces qui ont signé quand même ou qui ont affiché dans tous les commissariats et dans toutes les gendarmeries une charte de déontologie qui est exemplaire. Sur la violence, elle continue. Elle est plus insidieuse. Il n'y a pas de violence physique, mais c'est une violence morale, une violence psychologique. Dans les interrogatoires qui sont mis en place, dans les instructions judiciaires qui sont à charge pour les habitants de la ZAD ou en fonction de leurs moyens et qui sont à décharge pour d'autres. Quant aux groupes de violents, certes, ils ont permis la médiatisation, mais personnellement, j'ai eu un entretien aujourd'hui à la demande de l'avocat de la famille Fraisse, M. Halimi, j'ai dit que j'avais distingué plusieurs profils. Il y en a qui sont envoyés exprès pour être violents. Il y a des jeunes ou des personnes qui sont déjà marginalisées dans la société, qui arrivent en portant de la violence, et cela, on arrive à établir un dialogue avec eux et à les faire progresser et avancer sur la compréhension de leur propre violence et qu'ils puissent la poser et tout ça. Et puis il y a des gens qui sont totalement pacifiques, des jeunes notamment que j'ai vus, mais vu le niveau d'agression, ils n'étaient pas préparés à ça. On a demandé dès le début qu'il y ait une cellule psychologique, et c'est juste une réaction spontanée par quelque chose de tellement injuste et injustifiable que voilà, ils explosent. Hein. Voilà.
Ça peut être pas mal de confronter les points de vue peut-être, parce que c'est une question compliquée.
Après, dans vos vies, vous vivez des périodes qui peuvent vous sembler violentes, vous pouvez vous exprimer sur ça avec l'administration, et c'est la démocratie. Il y a eu un café citoyen à Toulouse, où il y avait des étudiants qui étaient là, et on a essayé de voir les parallèles qu'il y avait entre l'occupation de la fac et notre mouvement là. Et en fait, le parallèle qu'il y a, c'est la violence policière pour soutenir un État non démocratique au service d'intérêts privés.
Du coup, c'est quoi vos modes d'action dans ces... Parce que vous aviez l'air de porter un combat aussi, non?
Oui, en fait, c'est deux choses différentes. On porte un combat, on n'a pas fait le choix de la violence... Mais c'était pas un combat explicitement non violent, parce que beaucoup de gens dans l'association ne savent même pas ce que c'est que la non violence. Moi, j'ai deux casquettes, je suis aussi, comme Marguerite, du mouvement pour une alternative non violente. Je porte cette réflexion depuis que je suis ado, quoi, de comment on peut résoudre les conflits autrement que par la violence. Et je pense qu'il faut quand même être clair, c'est une question majeure pour notre société, à mon avis, de savoir si on dit un non ferme. Moi, je suis 100% d'accord hein, sur que cette société policière qui défend des intérêts. Mais excusez-moi de la comparaison. Si on regarde, par exemple, la situation des Palestiniens, qui sont dominés par un État qui écrase tout le monde, etc., Il y a la position du Hamas, c'est-à-dire face à cette violence tout à fait illégitime, on va envoyer des scuds et des je sais pas quoi, mais qui médiatiquement les marginalise. Et puis il y a ceux dont on ne fait pas de bruit, qui font des manifestations violentes toutes les semaines, etc. Et qui font quand même un sacré travail de fond. Et je crois que dans toute lutte aujourd'hui, mais moi je n'ai pas d'exemple de modèle à donner, ou de, je m'interroge parce que je pense qu'en termes de soutien, à un moment donné, l'opinion publique, quand il y a trop de violence, ou qu'elle ne comprend pas trop de la violence, parce que je veux bien que la violence elle soit 95% du côté de la police, mais le petit pourcent, ceux qui détiennent les médias, parce que qui c'est qui détient les médias, c'est les mêmes que ceux qui détiennent les capitaux. Donc c'est ceux qui vont savoir mettre la lorgnette sur la petite bavure, le petit dérapage, et qui vont monter. Donc si ceux qui organisent, ils sont pas hyper stricts pour dire ça, on le dénonce, on le laisse faire, parce que de toute façon, en face, comme ils nous cognent dessus, c'est légitime. Il me semble qu'on n'avance pas. Et par ailleurs, je sens que la police, elle travaille beaucoup sur les questions de non-violence. Et maintenant, il y a 20 ou 30 ans, elle était complètement démunie. C'était non-violence, elle ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, on sent qu'ils sont beaucoup plus capables de séparer les choses, d'isoler, de provoquer, et d'essayer d'avoir, jusqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va devenir violent, et puis ça va déraper. Quoi. Et je pense que cette question elle est importante.
Ça, c'était l'offre.
Par rapport à la violence des forces de l'ordre, moi je verrais ça plutôt dans un développement qui a déjà commencé début de 2000, peut-être même avant. Moi je me rappelle de Gênes, le G8 à Gênes, où il y avait le jeune mort dans les manifestations. Déjà à cette époque-là, on a discuté ça dans le cadre que les États, les élites se préparent à des soulèvements de masse parce que la situation sociale va, tôt ou tard, mener à des émeutes. Et les forces d'ordre sont, et les lois, et tout est préparé pour, dans les lois européennes, l'occupation d'un gare. Une gare, excusez-moi, c'est considéré comme un acte terroriste. Vous voyez, le soulèvement social va être mis dans le coin terrorisme, et là, on peut pas
tout
de suite. Et tout va dans ce sens-là.
Sur la question de la violence, je pense qu'il y a quelque chose qui est important de comprendre aussi, c'est que la violence, c'est faire du lien. Paradoxalement, ce que je dis là, ça peut être choquant, mais quand il y a quand il y a de la violence qui se met en place, ça veut dire que c'est du lien qui a été cassé, c'est du lien qui a été qui n'existe plus. Et le lien, c'est l'une des manières de faire de la violence, c'est l'une des manières de refaire du lien. Donc, de toute façon, quand dans une situation comme Sivens, mais il y en a plein d'autres où il n'y a plus de lien. C'est-à-dire qu'on a une élite corrompue, mafieuse, qui fait du clientélisme sans arrêt, qui a la légitimité des urnes, puisque c'est là-dessus qu'il se repose, et qui, du coup, dit, bon, ben, ce que vous pouvez dire en tant que citoyen, ça n'a pas d'importance, vous n'aviez qu'à bien voter. C'est-à-dire, en gros, être majoritaire. Or, du coup, c'est pas parce qu'on n'est pas majoritaire qu'il y a des choses qui sont pas justes. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que quand, par exemple, les Français ont décidé d'être contre le traité européen, on leur a quand même refilé derrière. Donc, de toute façon, même si vous êtes majoritaire, ça ne passe pas. Donc, il y a un vrai problème, c'est que du coup, on dit comment faire. Parce que si on est pacifiste, on est perdant. Parce que quand on est allé au tester, le jour de la manif, quand on voit que tout est rasé, on dit qu'on a déjà effectivement perdu, en tout cas sur ce volet-là, on a perdu. Et moi j'ai été très interpellé par un jeune qui nous a crié, voyez où ça nous mène le pacifisme. Et là il faut bien, je veux dire, si on est capable de regarder une situation dans l'état des lieux, on reconnaît bien qu'on avait perdu sur ce coup-là, à l'instant T, on avait perdu. Donc du coup, les réactions violentes, elles sont impossibles à maîtriser, et de surcroît, au tester, les forces de police qui étaient là pour qu'il y ait de la violence. C'est-à-dire qu'elles étaient, placées à un endroit, minoritairement, dans un cul-de-sac, pour se faire castagner, en espérant bien qu'il allait avoir des accidents, sauf que le scénario, c'est quand même pas tout à fait, à mon avis, c'est quand même pas tout à fait passé, comme il s'est passé. Et de surcroît, monsieur Cazeneuve, alors là, sur le coup, c'est une honte, de dire qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait au TC des forces de l'ordre. Je veux dire, c'est proprement scandaleux et c'est absolument à dénoncer aussi. Donc cette violence, si elle a lieu et que c'est contre-productif, et en même temps le pacifisme est contre-productif aussi. Le gros problème, c'est que tant qu'on défend des idées qui sont minoritaires dans la société, que ce soit la violence ou que ce soit le pacifisme, c'est quelque part non légitime. Et notre gros problème, c'est pas tant de trouver le mode d'action, mais que bien devenir majoritaire dans la société par un courant de pensée. Or, l'une des manières de faire, c'est d'arrêter d'alimenter cette société. Je pense que ça, c'est le premier pas à faire. C'est vous arrêtez. Si les gens de la FNSEA, parce qu'il faut quand même dire les noms à un moment où il faut dire, parce que les syndicats majoritaires, moi je veux bien, mais non. Quand la FNSEA vous emmerde, arrêtez d'acheter les produits de la FNSEA. Les supermarchés vous emmerdent, arrêtez d'aller dans les supermarchés. Ça commence par là. Et c'est non violent. Là, pour le coup, pour nous c'est non violent, mais pour eux c'est très violent. Il faut bien comprendre que la non-violence des uns, c'est pour les autres, c'est de la violence.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que la non-violence? Qu'est-ce que c'est la violence? Bon, je crois que c'est pas vraiment le débat, c'est vraiment pas le débat du soir. Mais en tout cas, je pense que sur ce genre de lutte, ce qui est important, c'est de développer, effectivement, ce que vous disiez, une autre manière de penser la société, et de faire des citoyens qui s'organisent. Et ce qui leur fait peur, justement, c'est qu'il n'y ait pas d'organisation politique qui soit derrière, qui leur dise ce qu'ils veulent. Et ça leur fout vraiment les jetons. Parce que si ça jamais, ça s'agglomère, et ça fait sens, je peux vous dire que là, ils auront les pétoches. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller.
Je pense que c'est quand même sûr qu'on n'avance pas. On a quand même deux luttes parmi plein d'autres luttes, mais qui prennent, qui rassemblent du monde, qui rassemblent justement des cultures politiques différentes, avec des moyens d'action différents. Et justement, il n'y a pas une partie qui dénonce l'autre, comme on a pu le voir dans des mouvements à Gênes, etc., où on a pu être... pas mal déçu d'une forme de désolidarisation de certaines...
Parlez plus
lentement. Et là, sur la ZAD du TST et sur Notre-Dame-des-Landes, on a quand même deux luttes où, je sais pas comment dire, mais il y a des moyens d'action plus offensifs, des moyens d'action plus pacifistes qui se rejoignent. En tout cas, il y a personne, on a vu après des grosses manifs où il y a des affrontements de chaque côté, où il y a personne qui a dénoncé l'autre, ou du moins on a essayé de faire ensemble. Et c'est là où ça marche, quoi. Alors, je trouve ça dommage de dire, faut dénoncer certains, c'est des... Je sais pas, ça colle vraiment pas avec ce qui se passe, quoi. Et puis, ouais, je sais pas, de faire comme si que... La violence, si on veut, ça relève forcément d'un jeune débile de 17 ans qui a eu un problème dans sa vie. Je sais pas, c'est... Ça peut être... Voilà, c'est revendiqué par une partie du mouvement, et c'est...
Ça doit être
assumé. Oui, en même temps.
J'assume complètement. Enfin, il n'y a pas non plus, il n'y a pas que l'affrontement basique entre guillemets avec les forces de l'ordre. Il y a eu des sabotages de machines dans ces luttes-là ou dans d'autres. Hein. Il y a plein de formes d'action. Et voilà, c'est. Des fois, on a l'impression qu'on est scandalisé parce qu'il y a une vitrine qui tombe, alors que c'est juste une vitrine de banque. C'est juste quelque chose qui a vocation à être détruit dans une société future. Donc,
mais ça c'est un point de vue.
Bien sûr. Mais j'aimerais bien qu'on partage de façon plus collective, plus large en tout cas.
Du coup, moi, à entendre un peu ce qui se dit là ici, mais à chaque fois ça me fait le même effet en fait. J'ai l'impression qu'il y a vachement cette réflexion autour du moyen d'action qui est à réfléchir selon l'opinion publique et du coup, qu'est-ce qui pourrait servir ou desservir aussi. La cause ou quel mot a été employé contre-productif ou productif et moi du coup j'ai vachement de mal de ça, mais parce que j'ai vachement de mal avec l'idée de démocratie sûrement, j'ai vachement de mal avec l'idée de citoyennisme et de majorité qui et voilà, et du coup souvent quand je m'engage dans quelque chose et j'essaye pas de séduire la majorité, j'essaye de Mais voilà, je vais sûrement grandir là-dessus. Voilà, j'ouvre une piste là-dessus, on peut réfléchir là-dessus. Après, du coup, sur ce truc de diversité de moyens d'action, il y a pas longtemps, j'ai rencontré des gens qui sont venus présenter un bouquin sur la lutte qu'il y a eu à Montréal en 2012. C'est un bouquin qui s'appelle On s'en calisse, qui veut dire on s'en fout. Et du coup, ils expliquaient brièvement qu'en fait, il y avait eu une première grève d'étudiants et de travailleurs et tout ça en février. Ça a duré jusqu'en septembre. Du coup, ça a duré plusieurs mois. Et en février, ils ont commencé par occuper l'université, comme ça se fait souvent dans les mouvements étudiants. Et là, ils ont bloqué toutes les portes et la police a tout simplement détruit un mur et rentré dans l'université. Et du coup, il n'y avait plus d'occupation qui était possible. Il suffisait plus de fermer une porte pour réoccuper l'université. Et à partir de ce moment-là, où il n'y avait plus de points névralgiques où concentrer la lutte et d'occupation à faire, ils ont décidé un truc tout simple. Il y avait un grand syndicat étudiant qui était assez intègre et qui avait sa ligne politique claire et qui a décidé en fait de voter la diversité d'action. Et du coup, ils ont choisi d'avoir une diversité d'action. Voilà, qui veut faire une action, fait une action. Et c'est sa responsabilité, c'est la responsabilité du groupe. Et chacun fait ses actions dans son coin. Alors du coup, ils expliquaient qu'ils utilisaient autant des outils d'Internet pour se coordonner avec des codes de couleurs. Rouge, c'était très dangereux. Vert, c'était pacifiste et tout ça. Et puis chacun s'organisait par petits groupes. Aller au matin, bloquer une route. Ben, Montréal, c'est plein de routes qui mènent à Montréal. Du coup, c'est assez facile à bloquer. Et ils faisaient leurs actions comme ça. Ils ont tenu plusieurs mois, même l'été, tout ça. Et
du coup, c'est
en restant solidaire. Et puis voilà, en s'aidant. Et du coup, ce modèle-là, moi, il m'a vachement touché quand on m'a présenté J'aimerais bien en fait qu'on arrive aujourd'hui dans les luttes à pouvoir faire ça, parce qu'encore à Toulouse là ce week-end, en allant dans manifestation à Toulouse, ça s'empoigne entre pacifistes, entre personnes non pacifistes, et vraiment ça sépare, ça, et du coup voilà, c'est aussi avoir une tolérance sur les moyens d'action et sur
J'ai pas vu pacifiste.
Ah non, je regarde.
Non, parce que tu regardes.
Ah non, c'est adressé à ouais, t'es juste en face et j'ai besoin d'un peu de concentration.
Juste réagir sur ce que tu as dit. En principe, ça me plaît ce que tu dis, sauf que dans les 35 ans que je fasse ça, ce que je fais, j'ai trop souvent vu les plus radicaux sont des agents qui sont là pour semer le trouble.
Et c'est ce que j'allais dire.
C'était dans les maisons, dans les mouvements des squatteurs des années 80, les plus radicaux, c'était des policiers. Voilà. À Gênes, dans le Black Bloc, il y avait des forces de l'ordre italien. On a trop vu ça. On est plus dupes.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on n'est plus dupes. Hein. Depuis l'église Saint-Bernard, ça doit vous parler un peu quand même, hein. Une église, la porte fracassée, dedans des sans-papiers, c'est-à-dire c'est pas des gens violents, les sans-papiers. Hein. À Toulouse, assis par terre, des jeunes, des moins jeunes, et d'un coup ça part parce qu'ils en ont marre juste d'être là, c'est l'heure de l'apéro, il faut qu'ils rentrent. Mais effectivement, comme tu viens de le dire, Anna, il y a ceux qui sont là pour semer le trouble. Alors, tu les qualifies d'appartenance à des services de l'État. Moi, j'en ai vu qui sont là aussi bien. Après, dans leurs propos, quand on les réécoute, ils peuvent très bien servir à un parti politique et être là pour semer le trouble, juste pour qu'il y ait des images médiatiques qui soit tourné et peut-être en complicité dans la police. Je pense pas, je mets jamais d'abord tout le monde dans le grand sac et puis on ferme la boucle, parce que j'en ai des membres de ma famille et j'en ai fait partie un peu quand même. Donc, mais comme disait Thierry Roland dans les stades de football, il suffit de deux ou trois excités. Là, il y a quand même une partie des leurs qui sont pas mal excités. Je pense que leur bulletin de vote, il n'y a pas photo, il est bleu marine. Et ils se lâchent complètement. Le fait est de comprendre pourquoi ils ne sont pas sanctionnés quand ils insultent des femmes directes. En les traitant de grosses salopes, qu'elles ont carrément les sucer, et qu'ils ne soient pas sanctionnés alors que c'est filmé, qu'ils déchirent les tentes et qu'ils brûlent le matériel, et qu'il ne soit pas sanctionné. C'est ça qui a fait l'escalade de la violence. Et c'est pour ça que Jean Jimena, qui anime depuis 20 ans le Café Citoyen de Toulouse, avec modestie et efficacité, il détermine la mort de Rémi, non pas comme une bavure, mais comme une mort programmée. Ah, donc que faire par rapport à cette violence et tout ça, la question, elle ne se résout pas par un engagement. L'engagement, il peut être que personnel. Et c'est qu'une réflexion personnelle et un cheminement personnel qu'on partage, qu'on essaye de partager pour s'élever dans la construction d'une nouvelle société. Mais l'ancienne, elle est toujours là avec...
C'est bon. Moi, ce que je voulais dire rapidement, juste pour... De toute façon, les provocateurs, il y en aura toujours. Des médias aux ordres, il y en aura toujours. La question, c'est non pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est comment est-ce que nous, on les gère. Voilà. Comment est-ce que nous, on fait pour leur laisser le moins de prise possible. Alors, on n'a pas forcément la réponse, mais on a quand même un peu avancé à force d'être confronté à ça. Donc là, je vous livre des trucs, c'est pas définitif. Hein, c'est des machins qu'on... Disons qu'ils commencent à être un peu des idées un peu majoritaires parmi nous. C'est que d'abord, on valorise la complémentarité des modes d'action, c'est-à-dire que on n'appelle pas à la violence, mais on ne va pas la condamner. Et ensuite, il y a quelque chose qui moi me paraît important et qui nous paraît important, c'est que il faut peut-être ne pas forcément camper sur des positions de principe et avoir une d'abord, évidemment, la violence. Je veux dire, violence, ça peut être utilisé pour beaucoup de choses. Elle peut être symbolique, elle peut être sur le matériel. Elle peut être psychologique, etc. Nous, on a un principe, c'est qu'on se bat contre un système et pas contre des individus. Donc, on va pas viser, axer notre violence sur des individus. Et ensuite, pour tout ce qui est violence symbolique sur les banques, etc., il faut voir, on a aussi une réflexion stratégique. C'est-à-dire que des manifestations de 2000 personnes en France, il y en a beaucoup, elles sont pas forcément remarquées. Les médias sont là, ils sont aux ordres, certes, mais on peut quand même les utiliser, on peut les manipuler. Alors peut-être qu'une manif de 2000 personnes où il se passe rien, on n'en parlera pas, mais une manif de 2000 personnes où il y a une vitrine qui est cassée, eh bien, la société, la ville, va se positionner par rapport à ça. Alors, il y a des gens qui vont réagir dans un sens, d'autres dans l'autre, mais au moins, les opinions seront exprimées.
Oui, là-bas, j'ai un poteau.
Jean. Bon.
Ben moi, sur la violence, je suis assez surprise de ce que j'entends. Parce que c'est bien connu que la violence appelle la violence et c'est une escalade qui va jusqu'où ? Ben, jusqu'à des drames. Et laisser la violence... Alors après, je dis ça de loin, c'est sûr que... Voilà, mais laisser la violence à ceux d'en face, et ben, c'est peut-être faire preuve de plus de hauteur et leur laisser... Enfin, ceux qui... Parfois, ceux qui cognent, c'est ceux qui ont le moins d'arguments aussi. Donc leur laisser ça et soit... voilà. Et ensuite, quand on parle de productivité, il y a quand même eu des très très grands combats. Alors bon, ça, c'est plus loin, mais comme les combats de Martin Luther King, où c'était pas du tout parti gagnant et sans violence, en se laissant cogner. Alors il y a aussi eu des accidents. Mais eh bien, ils sont arrivés à améliorer la situation. Il y a encore du travail, mais voilà, pour dire que c'est pas productif, ben, ça peut l'être. Peut-être plus que s'ils étaient allés cogner, ben, peut-être ça aurait pas été aussi loin. Quand on veut faire parler, mais faire parler en négatif, je suis pas sûre que ce soit très productif de faire parler en que les gens disent bah, de toute façon c'est que des casseurs, ils sont là que pour ça. Est-ce que c'est plus productif qu'à la limite de faire moins parler? Mais voilà, enfin je sais, enfin voilà, moi ça me... Ne pas condamner la violence ou la défendre, ça me laisse perplexe en fait. Parce que, voilà.
Je réagis sur ce que tu dis. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Alors, j'ai pas la définition exacte, mais sur le terme de violence, on est. Je pense qu'on est en train de se paumer un petit peu. C'est-à-dire qu'on est en train de tout mettre dans le même sac. Quoi. Et on va finir par plus savoir de quoi on parle en fait, parce que la violence c'est quelque chose de totalement relatif en fait. Je veux dire, aujourd'hui, le PKK, par exemple, à Kobané, il se bat avec les armes pour essayer de défendre ce petit bout de ville qu'ils ont là, contre des mecs qui arrivent aussi avec des lance-roquettes et des machins. Nous, on jette des cailloux. Tu vois. Et, je veux dire, il y a tellement de degrés de violence et tellement de façons d'exploiter l'être humain aujourd'hui que si on, nous on veut rentrer dans ce débat-là, il va falloir qu'on soit beaucoup plus carré quoi sur la question. Parce que on peut très bien parler par exemple sur la domination, on pourrait très bien faire un débat entièrement sur la violence symbolique. Alors je reprends le terme au sens bourdieusien du terme, hein. Je dis pas violence symbolique dans le sens bien symboliquement je vais te mettre une tarte. C'est pas ça. C'est la violence symbolique, c'est de dire, par exemple, au niveau de l'éducation, j'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns d'entre vous qui connaissent cette histoire, c'est-à-dire qu'on est dans un système éducatif aujourd'hui où celui qui réussit est censé être responsable de sa réussite et celui qui échoue, lui aussi, être responsable de son échec. Alors qu'en réalité, ce sont au départ les héritages culturels qui font la différence. C'est-à-dire qu'on met devant la ligne de départ un lièvre et une tortue, et on dit qu'ils ont les mêmes chances. D'accord? Donc c'est une violence qui est extrême, en fait. Hein, parce que c'est, en fait, elle caractérise le fait que chacun se retrouve à une place sociale, que ce soit un patron, ou que ce soit un ouvrier, ou que ce soit un chômeur, et qui pense qu'il est de sa responsabilité. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. D'accord? Donc, je prends cet exemple juste pour dire que je crois qu'on va se paumer sur le fait de ce que c'est que la violence ou pas. Moi, ce que j'ai vu en tout cas à tout niveau, pour revenir sur ce que tu disais, c'est que finalement on est en train de se demander qui a commencé quoi. Et je crois pas qu'on ait commencé nous à exploiter les autres, tu vois. Et je crois pas qu'on ait commencé à dire ouais toi tu fermes ta gueule hein, et tu vas me cirer les pompes et puis après t'iras dans ton gourbi là-bas et puis je veux plus te voir. Je crois que c'est pas nous qui avons commencé. Or, la réalité, c'est bien ça, en fait. C'est qu'on est des esclaves. On est d'accord? Et si nous, on n'est pas des esclaves, ce sont les petits Marocains qui travaillent pour nous, ou les petits Chinois, ou les petits Argentins, ou tout ce que tu veux. D'accord? Et ce niveau-là de violence, pour moi, il est... tu peux pas dire la violence appelle la violence. C'est un monde ultra-violent qu'on a créé pour nous. On l'a déjà créé, cette violence. Elle est déjà là. Et elle nous bouffe, en fait. Et à quoi elle conduit en réalité cette violence à partir du moment où elle est intégrée dans des rapports sociaux normaux, c'est-à-dire moi je vais au travail, je laisse passer la petite dame devant moi, je me sers sur la route parce que monsieur a un gros tracteur, etc. Où est-ce que ça mène ça? Ça mène à l'hôpital psychiatrique. Et ça mène au fait qu'en France, on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs, de tabac, d'alcool et de toute drogue confondue. Voilà où ça mène. Et parce qu'on est obligé d'intégrer, nous, d'avoir la responsabilité d'une société pathogène, en fait. C'est ça, le truc. Et en plus de ça, quand toi, tu vas acheter de la drogue, quand tu vas acheter de l'alcool, du Ricard, du machin et du truc, ça fait du business. Donc, il y a encore des mecs qui sont là-haut, dans des salons, en train de dire « Combien tu touches ?» Moi, mon gars, mais je fais des millions. Et comment tu fais? Mais je mets des mecs à plat ventre. Voilà comment je fais. Et après, derrière, nous, on va se demander si on est légitime de jeter des cailloux sur des trous du cul qui n'ont pas réfléchi en se disant « Moi, j'ai pas de boulot, j'ai fait des gamins, je sais... Bah, pff, l'armée, c'est mon meilleur ami. » On est sans blague. Oh, il faut qu'on se recadre là-dessus, quoi. On est face à un oppresseur et qui n'a aucun scrupule. Aucun. Parce que si nous, aujourd'hui, on a des mecs qui viennent avec des flashballs, c'est parce qu'à l'autre bout du monde, on envoie des mirages. Hein, on est d'accord, sur le Mali, sur la Syrie, on envoie des bombes. Parce que la pauvreté, il faut qu'elle reste là-bas. Et on aurait encore, nous, à se sentir coupable d'envoyer des cailloux. Non mais sans déconner. Oh! Alors si vous voulez pas jeter de cailloux, vous jetez pas de cailloux, excusez-moi, je m'énerve. Si vous voulez pas être violent, etc., on n'est pas violent. Mais si on veut pas se rendre compte qu'on est en train de se la faire mettre vraiment, eh ben ça veut dire que on reste chez nous, on regarde Jean-Pierre, à 13h, tranquille, le petit sabotier du coin, super, qu'est-ce qu'il y a chérie pour manger, reste dans la cuisine, là tu me saoules avec ton bordel. Voilà ce qui se passe. Donc c'est, moi, désolé, je suis en colère, mais à la limite, je dis pas désolé, je suis en colère. Je suis dans une putain de colère, et j'endors pas. Ok? Alors, la violence, terminé ce débat-là pour moi. J'aimerais le clore, quoi. Et tout le monde participe dans ses actions, et si on a envie de se bouger, on se bouge, quoi. C'est tout. Mais après, chacun sa responsabilité. Et dites pas, ah, on est violent, machin.
Juste par rapport à la violence et tout, de savoir qui a commencé et qui a pas commencé,
enfin, juste dans plein de luttes, en fait, c'est pas une entité, en fait, les personnes qui se battent contre, par exemple, les violences policières et tout ça. Il y a toujours des conflits aussi dans... Enfin, au sein même, en fait, de ces trucs-là, et c'est pas nous qui avons commencé à se faire exploiter, mais ces formes de domination, il y en a plein, et internes, en fait, aussi, dans les trucs, quoi. Et la violence, pour moi, enfin, du coup, elle peut être de tout ordre, en fait, quoi. Se faire taper par quelqu'un, ou se faire siffler dans la rue, ou, tu vois, il y a plein de trucs, en fait, qui peut être violent, et la réponse spontanée, en fait, c'est là où elle fait peur à beaucoup de gens, et où on stigmatise vachement la violence et tout, en fait, c'est juste que... Enfin, je sais pas, quoi, il y a quelqu'un qui te tarte ou qui te siffle, en fait, t'as juste envie de foutre ton poing dans la gueule, en fait, parce que c'est juste pas possible, en fait, de continuer à accepter aussi n'importe quelle oppression. Et là, bon, c'est les keufs et tout ça, là, qui viennent, et qui sont en cordon et tout ça, juste leur position en elle-même, juste à les keufs, juste leur présence, en fait, elle est pas possible, en fait, on peut être que violent, et c'est pas vouloir du lien que d'être violent, au contraire, c'est refuser ce lien, en fait. Refuser un lien avec un pouvoir en place, refuser un lien avec une forme d'oppression et tout ça, en fait. Et voilà, et après, pour toute forme d'action, dans tous les cas, moi, j'ai pas envie de réfléchir à des formes d'action ou n'importe quoi pour me dire que l'opinion publique ou... Enfin, quand tu dis 2000 personnes qui se baladent dans la rue, ça, c'est pas médiatisé, mais quand une vitrine qui pète, c'est médiatisé. Et j'espère vraiment pas réfléchir mes choses en fonction des médias, en fait, qui vont être... Qui vont avoir lieu, en fait, ce qui va se dire dans les journaux, en fait, parce que moi, pour ce qui m'importe, c'est ce qui va se passer dans la rue, en fait, ce qui va se voir, en fait, ce que les gens vont voir et tout ça. C'est sûr que les gens dans leur 5 étoiles, ils vont pas forcément le voir et tout ça, mais justement, c'est ces gens-là qu'il faut attaquer, c'est ces vitrines qu'il faut péter, enfin, c'est tous ces trucs-là, en fait, quoi, et que, enfin, moi, les médias, enfin, pour moi, l'outil journalistique, il a chier, en fait, il va pas nous aider. Et du coup, voilà, en fait, la violence, enfin, ça peut être à plein de niveaux, en fait, quoi, et du coup, moi, je la défends, en fait. Enfin, juste la prendre en compte, en fait. Enfin, voilà, et c'est juste aussi des problèmes dans des manifs ou dans plein de trucs, en fait, c'est que les gens ont peur de cette violence, alors que c'est une réaction qui est spontanée, qui est... Enfin, c'est pas grave d'être violent, de vouloir taper sur un mur, de vouloir gueuler, on a toujours peur de ce truc-là, en fait, c'est juste, on a besoin de s'exprimer aussi. Et qu'il faut le prendre en compte, il faut arriver à en parler aussi, en fait. C'est pas juste de faire les choses dans leur coin, en fait. C'est arriver à communiquer là-dessus, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est hyper important, en fait. C'est que quand quelqu'un pète un plomb, ben, c'est cool de l'entourer aussi, en fait. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Et que ça se passe pas juste, en fait, une vitrine, on dit rien, ou on gueule comme ça, il se passe rien, quoi. Il faut garder des connexions, justement, et accepter la violence, accepter le pacifisme, accepter plein de modes d'action. Hein. Et voilà.
Connexion, c'est bien des liens.
Oui, mais pas avec les coffres.
Ah oui, mais non. Bah, non,
c'est juste, justement là, mon expérience personnelle qui me mène à un petit problème avec la violence de certains dans les manifs, qui eux font leur action, qui jettent leurs pierres, ce que je comprends très bien, mais quand les forces de l'ordre de l'autre côté réagissent, eux, ils sont les plus rapides à courir, et ceux qui se prennent les bâtons dans le dos, ce sont que les pauvres petits cons qui ne savent pas courir assez rapidement. Ça, j'en ai eu assez. Et c'est ça pourquoi j'ai mon petit problème avec la violence. Je suis totalement d'accord qu'il y a des situations où il faut être violent, mais bien sûr, si on veut arrêter un chantier de fracking dans les gorges du Tarn, ça va pas nous aider de chanter « We will overcome ». D'accord, ok. On va aller un peu plus loin, sûr et certain. Mais quand certains groupes veulent utiliser la force, qu'ils réfléchissent un tout petit peu qu'est-ce que ça va donner pour les autres. Ça, je veux bien.
Ben ouais, justement, je pense qu'il y a de la réflexion des deux côtés. C'est prétendre que de l'autre côté il n'y a pas de réflexion, c'est déjà un problème de ne pas reconnaître les groupes d'en face. Tout à l'heure, quand tu dis ceux qui vont à l'affrontement, c'est tous des flics, mais bon, tu dis un peu ça. Bon, c'est quelque chose qui est à peu près faux historiquement. Je n'ai pas jamais vu de. C'est des exceptions qu'on a entendues deux, trois fois. Bon, c'est quand même pas du tout une généralité. On sort souvent cet argument-là qui est faux. Sur Gandhi et Martin Luther King, c'est aussi des choses fausses. À chaque fois, il y a des mouvements armés qui ont été en parallèle et qui ont aussi joué. Pour citer les Black Panthers, pendant Martin Luther King, il faudrait quand même pas oublier ce qui s'est passé. Et Gandhi, c'est pareil, il y a des mouvements armés en parallèle. Il ne faut pas rappeler qu'une moitié de l'histoire. Voilà, moi je redis, enfin, comme Père disait sur la coordination à Notre-Dame-des-Landes, il y a des chalumens pendant qu'il y a des lanceurs de cailloux, pendant qu'il y a des saboteurs de machines et des pétitions. C'est tout ça qui fait que la lutte marche, quoi. Et après, il faut réfléchir. Moi, je suis d'accord que des fois, je sais pas, la dernière fois, j'étais à Albi, on dirait qu'il y a cet affrontement systématique. Alors, sur ce moment-là, il y avait sûrement, bon, moi, il y avait peut-être autre chose à faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir stratégiquement, mais non-violence, pour moi, c'est absolument pas pertinent. Et sur la cascade tout à l'heure, moi, la première question que j'aurais envie de dire, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que les pétitions? Est-ce que les turbines, je ne sais même pas comment ça marche, hein, je suis extérieur à ça, mais il ne faut pas les arrêter, quoi. De toute façon, très violente, quoi. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire au bout de 4 ans?
Très facile.
Ou occuper ce machin, voilà. Parce que.
Allez, action.
L'action et la vérité.
Oui, vas-y.
Oui. Moi, je voudrais revenir sur le barrage quand même pour savoir où ça en est et qu'est-ce qui va se passer d'après vous au niveau de la lutte par rapport à ce barrage.
Alors, je commande, tu veux compléter? On n'est pas devant. Ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a une phase de négociation, en gros, qui a été. Ouais, voilà. Il y a une phase de négociation qui a été ouverte, en gros, à la ministre de l'écologie. Il semble qu'elle veuille gagner du temps, donc elle a renvoyé des experts sur le terrain. Il y a peut-être plus une volonté de prendre contact avec les occupants qu'avant, qui pourtant n'ont rien à négocier. Donc. Je sais pas, c'est une sorte de prise de contact. Après, elle a clairement dit qu'il se passerait rien avant la fin de l'année prochaine. Je pense qu'ils sont en train de chercher une sortie par le haut. De toute façon, le barrage tel qu'il a été désigné initialement, il ne se fera pas, puisque toutes les indications vont dans l'autre sens. Donc les options, c'est quoi? C'est soit un abandon total, soit un redimensionnement, c'est-à-dire... la digue, plutôt qu'elle fasse 12 mètres d'eau, elle en fera 10. Soit un projet ailleurs, autrement dit, on refile ça au mandat présidentiel suivant. Voilà, je pense que la réponse, elle dépend aussi du rapport politique qu'on construit sur le terrain. À mon avis, c'est pas tranché. Et c'est pour ça qu'il n'est pas d'actualité que la ZAD des campes, quoi. Mais, je sais pas si vous comprenez.
Donc il y a des rumeurs qui courent de nous faire partir dans la semaine prochaine, encore par la force, hein, parce que ça n'a pas servi grand-chose. Crémalville, on en a parlé au début, ça s'est construit. Et là, visiblement, il y a quand même une opposition des décideurs et de ceux qui ont des responsabilités, vraiment, qui ont beau mettre des gants blancs, on voit quand même le sang sur leurs mains. Ils ont des moyens, ils ont du pouvoir et ils sont pas encore en prison. Hein. Pour le moment, ceux qui sont en prison et ceux qui sont enfermés ou inculpés, c'est beaucoup nous. On va essayer de construire, alors on n'est pas devin, on n'en sait rien de l'avenir, on va essayer de construire une demande d'amnistie qui soit relayée par tous ceux de la société qui trouvent que c'est vraiment injuste et qui ont encore un sens moral et civique pour dénoncer ça et de voir comment on se réorganise ici pour éviter d'abord d'en prendre plus parce qu'il y a des échéances à court terme sur soit on file carrément les clés de la boutique à quelques grandes entreprises internationales et puis on n'a plus rien à dire, ils ont qu'à demander les sous qu'ils veulent direct et plus besoin d'avoir de ministère ni d'élus, hein. Voilà. Après, ça se construit tous les jours, hein, tous les jours avec ceux qui sont là, avec ceux qui sont plus loin, avec ceux qui s'engagent, avec ceux qui se mettent en route, qui ont fait un pas, ceux qui en ont déjà fait 10. On voit avec toutes ces composantes-là, aujourd'hui ça touche tous les milieux et ça touche toutes les parties de la société. La Ligue des droits de l'homme, il y a beaucoup d'avocats, on en a un qui est adjoint de notre député de la deuxième circonscription ici, qui amène ses connaissances par rapport à la Ligue des droits de l'homme, puisqu'il est ancien président de la Ligue du département. Voilà, c'est une co-construction, et c'est pour ça ce soir un peu qu'on est là aussi, pour partager ce moment, et voir comment on peut, ensemble, chacun avec nos capacités et nos compétences, continuer dans cette période de transition où les projets, ils sont certes peut-être pas inutiles pour certains parce qu'ils vont bien continuer à s'enrichir, mais en tout cas, ils sont imposés avec une méthode et une manière qui est, au bon sens commun, totalement inacceptable, et en tout cas qui nie les principes même fondamentaux de la démocratie. Donc qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut là-bas à Sivens? On le détermine au jour le jour. Qu'est-ce qu'on veut nous par rapport au monde et à la société dans laquelle on a envie d'évoluer ensemble, vous, nous, là, ici, en Aveyron, les autres là-bas dans le Tarn et les autres dans leur département. Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on continue à mettre en place? C'est tout le temps. Et voilà, on coupe déjà la télé. Et on continue ces échanges. Est-ce que ça reste au niveau d'échanges plus ou moins formels, plus ou moins informels, ou est-ce que on s'empare vraiment de notre territoire? Et est-ce qu'on dit non, chez nous ça c'est pas possible?
Et pour compléter aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit mine de rien un sacré réseau de personnes très variées, avec leurs connaissances, leurs modes d'action, etc. Et que des projets à la con comme ça, dans le Tarn, il y en a à l'appel. Voilà, d'abord, il y a plein de barrages de prévus. Sylvain, c'est que le premier d'une longue série. Mais il y a aussi l'autoroute Toulouse-Castres qui sert à gagner 10 minutes au prix d'un péage Vinci et qui... Il y a le supermarché, il y a les portes du Tarn, enfin bref, tout ce qu'on construit aujourd'hui, que le barrage se fasse ou ne se fasse pas, qu'il se fasse ici ou qu'il se fasse ailleurs, ça sera ça de prix pour s'organiser plus tard.
Dans le projet de Sivens comme dans les autres, dans les 50 ou 60 barrages qui étaient prévus sur ce bassin de la Garonne, c'était, peut-être je me trompe, pour donner en partie de l'eau à des gens qui font du maïs sur le Tarn et Garonne jusqu'au plus près de Bordeaux, on va dire. On sait que le maïs, l'eau qui va être stockée, va s'évaporer. On sait que c'est une hérésie que de donner de l'eau à du maïs dans des endroits comme ça, même si les Landes ont été productrices de maïs, donc le Gers aussi, mais que c'est un coût phénoménal, pour donner à manger à nos vaches, qu'on ne sait pas quoi en faire, et qu'on ferait mieux de manger le maïs en tant que maïs, ou la lentille, ou un produit qui pourrait nous amener les mêmes choses que de manger un bifteck de cheval. Donc... que des chevaux ou des vaches, que les super producteurs de la FNSEA ou d'autres veuillent ce système économique, on ne peut pas leur vouloir, c'est leur tasse de thé, qu'ils soient relayés par des pouvoirs politiques, c'est leur tasse de thé, que, et là, est-ce que les gens qui sont autour de Sivens et qui sont regroupés en coordination ou en collectif ou en association, je pense qu'ils pensent à ce problème-là aussi, on nous propose des régions, 13 régions en France, ou 15, peu importe, c'est pas le nombre qui est important, et au centre de ces régions seront les métropoles, qu'on appelle les métropoles. Ces métropoles qui sont Toulouse, Bordeaux, Nantes, les endroits où ça ne prend encore où, sont le principe de grosses villes qui vont tout ramener sur la ville. Donc on ne se bat pas contre ça. Il n'y a aucune voix qui s'élève contre des métropoles. Il y a des textes qui circulent de gens qui disent « la métropole, c'est l'avenir ». Parce que comme ça, les gens iront là et on pourra avoir les maisons de retraite proches des gens, les cinémas proches des gens, les supermarchés proches des gens, et Bouygues pourra faire la troisième autoroute autour de Toulouse, la deuxième à 20 km autour de Toulouse, qui correspond à des millions de mètres cubes de béton à fabriquer. Donc personne ne s'oppose politiquement, personne, très peu de gens, à ce type de projet qui est le projet de nos sociétés, de nos vies de demain. Que le barrage de Sivens, que Notre-Dame-des-Landes, on s'y oppose, et c'est la moindre des choses, y être, et on y est parfois, que l'on s'oppose aussi politiquement, ce qui demande moins de violence violente, qui en demande un petit peu moins, et qui serait tout simplement de dire non, on ne voudrait pas de vos métropoles, on ne veut pas de ces 13 régions, ni des 15, ni de tout ce que vous proposez, on veut décider nous ce qu'on veut demain. Ça serait non violent, ça serait... à partir de demain, puisqu'il y a un président qui me dit qu'il faudrait des référendums sur des petits sujets, et bien il y aurait un gros sujet. On nous demande notre avis. Ou qu'on le donne, sans qu'on nous le demande d'ailleurs, c'est bien le mieux. Et est-ce qu'à Sivens, des bases de réflexion sur le type de démocratie, des bases avec des écrits, à la limite, pas d'écrits, il y a des gens qui ont porté la parole, notamment les amis africains, et on a toujours les traces de ces paroles, donc ça peut être en parole aussi, pas forcément les écrits. Est-ce qu'il y a des bases de réflexion sur le nouvel type de société qu'on pourrait avoir? Chez Notre-Dame-de-Lande, il y a eu un des débuts, ou peut-être même encore plus maintenant, sur la manière de fonctionner d'une société, ou plusieurs sociétés. Est-ce qu'il y a quelque chose?
Concrètement, il n'y a pas grand-chose. Concrètement, il n'y a pas grand-chose. Après, pour moi, c'est ma vision, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, mais la question que tu poses, toi, elle induit forcément qu'on ait un rapport de force, quand même, qui soit positif. Je veux dire, pour demander qu'on abandonne le projet des métropoles, il faut bien qu'on soit nombreux. Et parce que des bonnes idées en politique, il y en a eu, hein. Il y en a eu plein des bonnes idées. Je veux dire, la nationalisation des banques dans un État constitué par une constitution, une république et tout ça. Je sais que t'aimes pas ce mot-là, ces mots-là. Tu vois, dans un État, on va dire, ça a été pensé tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas le rapport de force. Et ce que je pense, c'est que ce qui est pensé sur la ZAD, c'est le fait de réussir à agglomérer des gens. À faire en sorte que, à travers des luttes qui, effectivement, sont plus ou moins symboliques, c'est vrai que le barrage de Sivens, on en parlait tout à l'heure, c'est pas le premier truc qui nous préoccupe. C'est vrai que si on devait dire à chacun quel est notre but, là, qu'est-ce qu'on voudrait renverser maintenant, effectivement, c'est pas le projet de Sivens. Bien d'accord. Par contre, le fait de pouvoir travailler comme ça, pouvoir avoir des lutteurs qui sont là en permanence, eh bien, ça réveille un enthousiasme. Et ça réveille une solidarité, une vision collective, Et ça fait bouger des gens, quoi. Et ça fait assez longtemps que les partis politiques n'arrivent pas à bouger. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un exemple assez frappant. Samedi dernier, à Toulouse, il y a eu deux manifestations. Il y a eu une manif à l'appel des partis politiques, qui s'est passée vers 11h du matin, à laquelle il y avait à peu près 200 personnes. Quand des partis politiques appellent à manifester à Toulouse et qu'ils sont 200, si c'est pas pour démontrer leur mort, je sais pas ce que c'est. Et dans l'après-midi à 15h, il y avait une manif à l'appel des collectifs et donc plus ou moins des gens qui se rapprochent de la ZAD. Et il y avait 2000 personnes. Et je pense que par rapport à ça, on a symboliquement une photo qui démontre que ce qu'attendent les personnes aujourd'hui, ce qu'attendent les citoyens, c'est un acte politique efficace. Et 70% des gens aujourd'hui pensent que leur bulletin, le prochain bulletin qu'ils vont glisser dans l'urne, n'aura aucune efficacité. 70% des gens pensent ça. Et je pense qu'ils, c'est pas pour ça qu'ils sont dépolitisés, hein, ils sont pas dépolitisés, c'est pour ça qu'ils sont plus du tout clients de la politique. Et je crois que ce qui se pense aujourd'hui, et on en parlait dans la voiture en venant, on a un vrai travail aujourd'hui, de texte, un vrai travail d'éducation populaire à faire entre nous, d'autocritique sur l'efficacité, etc. Justement pour essayer d'aller plus loin sur ce qu'on veut une fois qu'on aura ce rapport de force qui est positif, parce que c'est ça le but. On peut pas faire de propositions dans le vent comme ça, quoi. Moi je peux me présenter à la présidentielle demain, il y a pas de souci. J'aurai 3 voix, tu vois.
Une signature.
Déjà j'aurai pas de signature. Donc c'est pas ça la question. La question c'est d'être capable de construire quelque chose qui fédère et qui ment pas. Et il n'y a personne qui se fait des thunes sur les ZAD aujourd'hui. Parce que dans tous les partis politiques, il y a des mecs qui se font des thunes. Donc c'est un début de réponse pour moi qui est très important, celui-là.
Après, moi je pense qu'il y a quand même plus de choses que ça qui se construisent sur les ZAD. Pour moi, les ZAD, c'est une lutte contre la métropolisation, justement. Parce que la métropolisation, c'est quoi? C'est la mise en compétition de territoire. C'est la mise en compétition... Alors, texto, hein, en citant les maires des grandes villes, c'est pour leur donner un statut de métropole européenne, c'est-à-dire pour drainer vers eux les populations qu'ils considèrent souhaitables, c'est-à-dire les gens privilégiés économiquement et socialement, et culturellement. Et ça implique aussi de drainer les flux. Et donc, par exemple, un grand objectif de Toulouse Métropole, c'est d'amener la LGV, pour ramener plus de ou d'être capitale européenne de la culture. Ça va ensemble. Pour moi, c'est la même logique. Et donc, dans cette logique, si vous voulez, il y a un effet, effectivement, tout est drainé sur la métropole, et entre les métropoles, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire que le TGV y passe, et il en reste rien, les flux économiques, culturels, tout ce que vous voulez, il passe, il en reste rien. Sivens, Notre-Dame-des-Landes, c'est un exemple parfait, c'est comment faire un tissu urbain continu entre Rennes et Nantes, voilà, Notre-Dame-des-Landes. Sivens, c'est d'ailleurs intéressant, c'est un tout petit projet, c'est un projet comme il s'en fait 15 dans les campagnes françaises chaque année. Mais pour moi, c'est un début de la réappropriation du territoire. C'est-à-dire que, non, les campagnes ne sont pas des déserts, non, on peut y faire des choses, non, tout ne se passera pas dans les métropoles. Voilà, c'est la logique d'organisation du territoire qui est aussi remise à mal. Le territoire n'a pas besoin d'être fonctionnel d'un point de vue économique, du capitalisme, si vous voulez, pour qu'il survive. Voilà.
Il y a des gens qui veulent rester sur le stade une fois que le projet est abandonné. Ils veulent vraiment vivre là-bas.
Alors, après la première prise de contact avec la préfecture, qui est toute récente, je veux dire avec le collectif des occupants, on a été non pas négocier, mais poser une liste de revendications. Au premier rang de laquelle figure garder la métairie neuve, donc la ferme squattée, et quelques bouts de terrain alentour comme lieu d'expérimentation sociale et agricole. Après, les formes que ça prend, je ne peux pas en juger.
Accueil de la préfecture
Préfecture du Tarn.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ah, quel accueil? Je sais pas. Le bout de papier est posé sur un bureau, sans doute.
C'est-à-dire qu'on avait rédigé un projet global avec une dynamique de projet.
Non, voilà. Il n'y a pas de projet, il y a quelques revendications qui ont le mérite de montrer qu'on n'est pas là pour négocier des détails techniques. C'est-à-dire que un redimensionnement du projet, un déplacement quelques kilomètres en aval, voilà, au moins ça c'est clair.
Est-ce que c'est intéressant de savoir comment on en est arrivé là? C'est-à-dire à partir du premier projet, comment le projet a évolué? Tu l'as un peu évoqué, un déplacement de 20 km, pour des raisons bien précises. Mais après, le problème du collectif qui a fait un travail technique important sur le projet et qui a fait intervenir tout un tas de branches scientifiques sur le projet, comment finalement ils ne se sont pas fait entendre et comment on en est arrivé à une situation hyper bloquée qui va effectivement sûrement faire que le barrage tel qu'il est tombe en désuétude.
Tombe mal,
non, il n'y a pas. Ça dépend de l'étiage.
C'était inspiré, oui.
Oui, moi, ça m'intéresse, c'est pas loin, c'est un autre département dans lequel j'ai travaillé dans la subdivision Tarn-Aveyron. Donc, avec des chefs d'entreprise, j'accompagnais les entreprises et je connais, j'ai eu accès à des documents et à des personnes qui avaient du savoir. Donc, il y a eu pas mal de successions de projets, il y a eu des résistances, donc il y a eu d'abord Cap Découverte, qui est un gouffre financier, où on s'est aperçu que quand même il y avait des comportements et des choses anormales pour une démocratie. Déjà, il y a eu une résistance et puis elle s'est fait laminer. Et quand on a vu l'utilisation de ça, après sur le Gaillacois et sur le site là-bas, il y avait la maison de la forêt, qui grâce à une butte n'est pas devenu une propriété privée du Conseil Général, mais a pu être ouverte. Ils ont voulu... Alors là, le prétexte, c'était les incendies. Donc déjà, ils prévoyaient aussi, ça a été un des motifs pour reconstruire un barrage, ou en tout cas une petite réserve d'eau avec des hélicoptères, parce que les maisons qui sont dans la Grésine, c'est un point sensible, effectivement, au feu. Ça a été un prétexte, donc il fallait enlever à côté de la maison de la forêt, c'est à un kilomètre et demi de la zone du barrage, c'est un très bel endroit d'un seul tenant, Il y avait des barbecues et tout un jardin aménagé pour les Gaillacois qui viennent le dimanche promener. Et ça, c'était dans l'objectif, ça devait être supprimé. C'est par une lutte que ça a pu rester en place. Et puis, il y a eu sur Gaillac le projet d'une plateforme multimodale qui supprimait 200 hectares de vergers, des vergers en plus d'espèces rares de pommes. Il y a eu une lutte, donc ce projet-là s'est pas fait. Et au fur et à mesure de ces luttes, il y a eu le barrage de Fourogue où les associations légalistes ont fait le maximum de travail qu'elles ont pu. Et malgré ça, elles se sont aperçues que c'était construit et la justice leur a donné raison 3 ans après. Donc il y a quand même, hein, Martine, elle dit là où c'est flou, il y a un loup, là il n'y a pas un loup, il y a une meute. Une meute qui est installée depuis 50 ans au poste de commande, qui a pris des habitudes et qui dans des lapsus traduit ce qu'ils sont. Quand le président du conseil général, il dit on a envahi le conseil général, hein. On a renversé 3 pots de fleurs et on a mis quelques tags. C'est pas moi, hein. Moi, je suis non violent avec les murs. Parce qu'en Aveyron, les murs ont des yeux. Et les ronds sont des oreilles. Non, au contraire. Il a dit qu'on avait écrit sur la tapisserie en cuir. Il a fait un lapsus entre chez lui et le conseil général parce qu'il considère que le conseil général, c'est sa propriété. C'est grave quand même. Donc à partir de là, il y a le maire de Val-d'Hériès qui est élu du conseil général, qui s'appelle monsieur André Cabot. On le connaît depuis longtemps aussi, quand on discute avec les anciens. Moi, mon rayon, c'est la mécanique, hein, et j'en connais vraiment un rayon de vélo. J'ai réparé des tracteurs, j'ai échangé, et les anciens, qui ont eu des entreprises quand je travaille encore, ils ont 70 et 80 ans, ils sont du tard. Et y en a originaires de milieux agricoles, ils se retrouvent dans des situations où ils ont mis en œuvre leurs compétences et leurs capacités, et ils ont des choses à raconter. Pourquoi ils n'ont jamais pu parler? Donc pour en revenir à Monsieur Cabot, qui est donc à ces deux postes-là, il est administrateur à la CACG, il est administrateur à la CACG, c'est la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, c'est elle qui a fait les études de travaux, c'est celle qui est responsable et meneuse des travaux, et c'est celle qui a la délégation d'exploitation pour 20 ans. Donc il est là, il est administrateur à l'agence Adro-Garonne, alors il prend pas part au vote, hein. Il est très très respectueux de la démocratie, donc il laisse juste les consignes et il vérifie après. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, en bonne amitié, jusqu'à ne plus parler à des membres de sa famille parce que visiblement ils risquent de répéter ou ils comprennent pas les attitudes. Voilà, il y a certains moments, ça s'appelle, Pierre l'a dit tout à l'heure, voilà, il y a des qualificatifs pour ça. Et c'est ce qui a généré la situation d'aujourd'hui, de ce hermétisme. Voilà.
Moi, je me demande, par rapport à ces ZAD et à ces mouvements-là, on sent bien que, en fait, ces mouvements-là sont arrivés dans un moment où les résistances étaient au plus bas, c'est-à-dire que les partis se cassent la gueule, toutes les formes de résistance sont en train de se casser la figure, et les ZAD arrivent à ce moment-là, puis c'est une nouvelle forme, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une dynamique, il y a quelque chose. Mais en même temps, on attend qu'il en sorte, enfin, je dis « on ». J'attendrai, moi, qu'il en sorte quelque chose de politique, parce que moi, un camp d'Indiens qui résiste, ça m'intéresse pas. Si ça reste un camp d'Indiens avec des gens qui sont très contents de ce qu'ils font, parce qu'ils sont solidaires, parce que j'entends toujours ce mot-là, on est solidaires, mais on est solidaires, c'est pas un projet politique. Donc, on entend aussi que ce sont des personnes que ça intéresse pas forcément que les autres, que la population les rejoigne. on entend que on s'en fout, nous on fait notre expérience et puis après ils viennent ou ils viennent pas, peu importe. Donc là, ma réflexion, ce serait plutôt de dire j'aimerais qu'il en sorte quelque chose qui aille au-delà de On est solidaires, qui soit un vrai projet et qui puisse fédérer autour de ça d'autres personnes qui se retrouveraient dans un projet politique plus global, quoi. Voilà. Et on attend, parce qu'on n'y est pas aussi, hein. Peut-être que ça existe sur place, mais on voit pas d'écrits, on voit pas de choses qui sortent construites. Et je me demande si un jour ça va arriver. Ouais. Et si ça reste un camp d'Indiens, c'est dommage. C'est dommage.
Tu vas, je vais.
Moi, enfin, juste pour dire que je partage pas trop cet avis, que le camp d'Indiens, s'il existe, bon, on peut en débattre, c'est pour ou c'est contre, mais peut-être de vouloir politiser ça. C'est peut-être tomber dans les travers de tous ces travers de la politique qu'on connaît. Moi, je vous donne à nouveau mon avis. Ce qui m'a paru les points les plus essentiels dans la soirée, qui ont été dit deux ou trois fois, c'est que chacun peut faire sa part. Et que, voilà, à mon avis, si chacun fait sa part d'une manière ou d'une autre, c'est plus important que de savoir si le projet il va être politique ou pas. Voilà, c'est tout.
Ouais, je pense, je rejoins cette idée-là avec une métaphore aussi. C'est que on a une belle plaque d'acier qui est comme une chape, et finalement il y a des points de rouille qui commencent à apparaître, et c'est ces points de rouille qui commencent à apparaître, et il faut qu'il y ait d'autres points de rouille, et la plaque elle va péter parce que il y aura des points de rouille, et que en fait ce qui leur fait vraiment très peur, c'est la capacité de vivre autrement que dans le modèle qui désirerait nous voir suivre. Et à partir de ce moment-là, je pense pas qu'il faut, on n'en est pas au stade d'avoir une réflexion politique qui va scléroser un mouvement qui est en train de naître. Je pense qu'il faut laisser maturer, il faut qu'il se généralise, et quelque part, il faut nous-mêmes créer la société à côté de celle qui est en cours. Nous, on crée notre société, on vit dans notre société, et petit à petit, il faut qu'on fasse tache d'huile et tache de rouille pour que cette plaque d'acier disparaisse. Et je pense que, en ce sens-là, ces expériences, que ce soit la ZAD, il y avait un point de rouille, là, il y a deux points de rouille, et demain, il y aura trois points de rouille. Il y a aussi, on n'en parle pas, mais le TAV avec l'Italie, tous ces grands travaux. Il y a vraiment des citoyens qui commencent à bouger, et c'est, pour l'instant, c'est pas très visible, mais je peux vous dire que quand on voit l'énergie qu'ils mettent à essayer de faire disparaître les taches de rouille, c'est que ça marche.
Vas-y d'abord. Non, mais juste sur le projet politique et tout ça, je pense pas qu'il faille attendre un projet politique qui débarque de la Z du Testé, mais à lire plein de trucs qui peuvent circuler sur ce qui reste de lutte, des récits de lutte et tout ça, il y a des choses qui ressortent, il y a énormément de littérature là-dessus, quoi. Il y a de plein de dynamiques différentes, il y a plein de choses, il y a un état d'esprit qui est là, il y a des façons de faire, je pense que le projet politique il est là en fait, faut juste aller chercher, discuter avec des gens, parcourir différents clubs comme ça, mais ça, c'est là, quoi. Je pense que c'est assez large, même. Ouais, il est là, quoi, en fait. Il est pas écrit, quoi. Il est pas écrit dans...
Il est peut-être pas lisible, alors.
Ouais, il est pas lisible, mais il existe, pour moi, quoi. C'est politisé, c'est le camp d'Indiens, il est...
Moi, je...
Non, mais vas-y.
Je ne veux pas tuer l'optimisme de Pierre, mais déjà, les petites taches de rouille restent vachement entre eux. C'est dommage, mais pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à percer nos circonscriptions. Et deuxième chose que je pense que l'autre côté, qui en profite de ce système, que nous on entretient, on est bien sûr qu'on n'a pas encore la société parallèle. Dès qu'on sera vraiment beaucoup, ils vont nous tomber dessus parce qu'ils vont pas pouvoir perdre.
Et c'est déjà
en train de se faire.
Ils vont nous tomber dessus à ce moment-là.
Ouais, c'est la peur. Alors moi je pense qu'il y a. D'abord, effectivement, faut reconnaître que on en parlait dans, en venant, mais la ZAD, c'est un mode d'action qui a des limites, et il faut commencer par les reconnaître, c'est-à-dire que d'abord, ça dépend pas mal de gens qui sont de passage, finalement, et donc c'est un peu compliqué pour tisser du lien, pour rentrer en relation avec le voisinage, pour avoir les mêmes compréhensions. Et aussi, il y a, comme partout, il y a peut-être un peu de naïveté politique. Des fois, on a l'impression de redécouvrir le feu, quoi. Mais de redécouvrir les bouquins qui sont là-bas, mais ils ont 40 ans et ils sont toujours aussi justes, toujours autant d'actualité. Critique du système technique, c'est transposable à l'actuel, ces bouquins. Ensuite, je pense qu'il y a quand même des choses qui émergent. D'abord, pour le fait que ces taches de rouille soient isolées, il y a qu'à voir ce qui se passe à Toulouse avec les facs qui se mettent à se bouger. Nous, on s'est trouvé confrontés à la tâche compliquée, c'est de faire un tract qui lie aussi bien ce qui se passe au Mirail, ce qui se passe au Testé, la répression policière, etc. Et du coup, on s'est gratté la tête, mais comment est-ce qu'on va faire un tract, je sais pas moi, 20 lignes, qui puisse parler à tout ça? Et parce qu'à la manif de samedi, il y avait tout ça en même temps. Et on s'est dit, bah en fait, c'est quoi le dénominateur commun, quoi? Dénominateur commun, on en arrivait à se dire, mais c'est des mots qu'on, d'habitude, on a peur d'employer. C'est, on veut décider nous-mêmes de la façon dont on vit, de la façon dont on fait vivre l'endroit où on vit. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Et c'est que, peut-être qu'il faut arrêter d'avoir peur de le dire pour justement pouvoir commencer à être un peu plus transversal. Parce que c'est, effectivement, on n'arrivera pas, je veux dire, les luttes rurales et les luttes de quartier, bon, ben c'est, Pour trouver un fondement commun, il faut aller au fondamental. Il faut aller à, on veut vivre comme on l'entend, et sans répression, on ne rentre pas dans ces formats, on n'est pas forcément à l'aise dans la société telle qu'on nous la propose, on veut pouvoir s'organiser comme on veut. Et enfin, récemment, à Notre-Dame-des-Landes, il y a un texte que, parmi la multitude, il y a un texte, moi, que j'ai trouvé intéressant, c'est, il n'est pas très long, il s'appelait « De la ZAD au commun ». Au commun, dans le sens aux terres communes. Et je pense que le projet politique de la ZAD, ben, finalement, c'est un petit peu retour à la commune de Paris, en quelque sens, et au communalisme et à l'abolition de la propriété privée. Du moins, c'est une expérience qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Et pour moi, c'est des milieux extrêmement politisés, du coup. Enfin, politisés pas au sens partisan, évidemment.
Oui. Moi, je vais peut-être pêcher un peu par optimisme, mais je pense que le système aussi bien politique qu'économique dans lequel on vit pour le moment, il n'est pas viable à long terme. C'est pas quelque chose qui va pouvoir se perpétuer des dizaines et des dizaines d'années, ne serait-ce que parce qu'on en arrive à l'épuisement des ressources énergétiques et de matériaux. Rien que ça va être obligé de nous faire changer. Je crois que toutes ces luttes-là, qui se passent aussi bien dans la zone du Testé, que à la ferme des Mille Vaches, que à l'aérodrome, le projet d'aéroport, toutes ces luttes-là, même si elles ne peuvent pas être efficaces directement contre le système actuel, elles préparent... Je pense qu'elle prépare le terrain pour quand tout va se casser la gueule, que tout ça, ça puisse émerger et que ça puisse avoir une action positive sur la gestion de l'environnement, des gens, de la culture, dans tous les domaines, quoi. Et je crois que même si apparemment c'est que des petites taches de rouille, je pense qu'elles font quand même taches d'huile, même si c'est incompatible les deux, mais elles font quand même taches d'huile. Et que, ce qui empêche actuellement tous ces regroupements, c'est la structure étatique, la structure politique, la structure économique qui empêche tout ça. Pourquoi les gens continuent à aller au supermarché, sachant que quand ils vont acheter un produit, soit il est importé et il a été fabriqué par des enfants à l'autre bout du monde, et ça c'est aussi une violence que nous on utilise tous les jours quand on va acheter tous ces produits-là. C'est aussi une violence contre le producteur de maraîcher qui est obligé de vendre à perte au supermarché. Enfin, toutes ces structures-là, elles ne sont pas viables dans le temps. Donc, je pense que tout ce qui se fait à droite, à gauche, comme petites choses, des choses individuelles ou des choses collectives, on est en train d'ensemencer le terrain pour plus tard. Donc, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est continuer.
Et à l'échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale. Parce que des luttes, il y en a dans le monde entier. Des expériences, il y en a des quantités dans le monde. Simplement, aujourd'hui, la question, c'est comment elles se rejoignent. Je ne parle pas d'un projet politique, mais en quelque part, comment elles se rencontrent et comment elles se rejoignent sur une trame un petit peu commune, voilà. Et c'est ça qui est, c'est que pour le moment, c'est des choses juste à poser, mais pas dans le monde entier, pas simplement en France. Il faut voir le nombre d'expériences qu'il y a de lutte partout. Donc, comment ça se fédère à un moment donné? Voilà, justement, Bourdieu récemment disait, il se passe des tas de choses et on n'arrive pas à les synthétiser, à en faire quelque chose d'un peu plus construit et au moins qu'on les connaisse, quoi. Elles sont, voilà, chacun connaît un petit bout d'une chose. Il n'y a pas de travail pour le moment de rassemblement de tout ça, quoi. Alors ça c'est, voilà, parce que c'est important à l'échelle mondiale. Hein.
Moi, par rapport à ça et à la situation française, j'ai tendance à dire heureusement, parce qu'avec ma petite vue sur les 30 dernières années, on a eu Coluche, on sait comment il a fini, qui avait un projet politique quand même assez élaboré, qui a agi. On a eu Pierre Rabhi qui s'est présenté aux élections présidentielles, on a vu comment il a été mis de côté. On a eu aux dernières présidentielles Clément Wittmann qui portait un projet politique, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler. Il a un projet politique, il parle de la décroissance, il y a un journal qui parle de la décroissance. Tout à l'heure, il y a eu une remarque sur la fin des ressources, et c'est pas que la fin des ressources pétrolières. Nous, en 80, dans les années 80, quand j'avais 20 ans, on savait le pic du beurre, la fin du pétrole, est-ce que ça allait engendrer? Est-ce que ça allait engendrer au niveau de transition énergétique, mais aussi aux transition économique, forcément, et transition environnementale normal. Puisque si on est arrivé au bout, on savait très bien que si on arrivait au bout, et encore on a trouvé d'autres trucs entre temps, donc si on va encore plus loin, ben cette transition-là sera encore plus terrible. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à chercher comment faire autrement, déjà pour subvenir le jour où il y aura beaucoup moins de côtes, puisque l'océan il avance, on constate les dégâts, on a quand même des repères et on voit une gradation de l'élévation du désastre. Ce projet politique porté par Clément Wittmann, qui s'appelle la décroissance, il tient la route. Hein. Il a fait le tour de France en vélo, il a écrit un livre, il a fait un film. Il faut voir comment il a été ruiné, comment il a été violé, dans le terme des violences qu'on lui a portées, et ostracisé pour pas que ça se sache, parce que ça fait peur. Ça fait peur aux détenteurs du pouvoir. Ils sont de moins en moins nombreux, de plus en plus riches, avec de plus en plus de puissance pour écraser l'oppression, mais en même temps, c'est je pense qu'on n'en est plus aux taches de rouille. Hein. Je suis d'une filière mécanique automobile, la rouille, effectivement, elle fait pas tache d'huile, mais elle court. On a beau essayer de l'arrêter, elle court dessous ce qu'on essaye d'arrêter, dès qu'elle récupère de l'oxygène. Et pour en revenir, tu disais, après une période où on était un peu écrasé, il y a un regain là, de vie. C'est notre respiration, la respiration du peuple. Qui c'est qui peut penser éradiquer les mouches? Qui c'est qui peut penser arrêter la dérive des continents? Qui c'est qui peut penser écraser les peuples du monde entier sans qu'il y ait une respiration, une révolution, un retour à l'état naturel du peuple qui s'autodétermine depuis quand même, depuis qu'il existe en tant que peuple ou en tant que peuplade en tout cas, sur un territoire et qui détermine en tant que gestionnaire du territoire, ensemble, qu'est-ce qu'est l'avenir de son territoire, qu'est-ce qu'il faut planter, à quelle époque, en fonction de la lune, voilà, parce qu'il connaît son sol, et tout ça, au nom de quelques technocrates, parce qu'ils sont bien payés et qu'ils sont dans des fauteuils dorés, voilà.
Le scooter doré. Pour rebondir sur le la plaque de rouille qui se cassera un jour inéluctablement et sur le qu'est-ce qu'il faut planter. Il me semble que c'est très important peut-être à ce jour d'essayer de piocher chez les anciens, derniers, les dernières infos de quand ils étaient jeunes, leur monde de marché avec des travers, avec plein de trucs, pas forcément piocher leur mode de vie, mais les infos qui font qu'avec rien, ça marche. Parce que ma génération, plus jeune ou même plus âgée, on a quasiment tout oublié de ça. Et moi, quand je vois mes deux grands-pères, comment ils ont grandi, avec rien, ils faisaient. Et nous, on a tout, on fait quasiment rien, on le jouait au bout de 6 mois. Donc peut-être que les jeunes, dans les choses à faire, chacun de son côté, comme disaient certaines personnes, ben, il y a ça. Essayer de choper ce qui marche.
Les savoir-faire.
Voilà, les savoir-faire artisanaux et agricoles.
Et en évolution.
Voilà. Parce que ça, agricole et artisanat, c'est local. On n'a pas besoin de l'autre bout du monde.
Les sources de vie.
Ah, presque, oui. Mais, voire de vie, ça peut.
Et un acte politique en même temps. Et là, l'acte politique, c'est un acte, c'est pas un projet. Un projet. Mais,
de dire, Marc, je pense que déjà résister, c'est un acte positif majeur. Et j'ai entendu aussi Mathieu ce qu'il a dit au départ.
Qu'en
fait, vous réfléchissiez à une société post-moderne. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. C'est pas du tout le village indien, je pense pas. Il y a beaucoup de réflexions et puis de pratiques démocratiques nouvelles. Bon, et s'aimer, et je crois beaucoup dans la tache d'huile. Il y a de plus en plus de taches d'huile partout dans le monde. On peut penser aussi aux États-Unis, ce qui s'est passé dernièrement avec les violences policières. Hein, on peut faire un parallèle. Et un point positif, demain, il y a pas mal d'intellectuels aux États-Unis qui ont déclaré demain le Black Friday, c'est-à-dire qu'ils demandent aux gens de ne pas aller acheter dans les magasins. Et ça, ça va être terrible pour le système capitaliste. Alors on espère que ça va marcher et qu'il y aura vraiment des conséquences et des remises en question sur la justice là-bas et ici. Voilà. Comme je reste positive, je vous dis merci pour votre implication et votre résistance. C'est une sacrée implication.
La nécessité fait qu'on ne peut pas faire autrement à des moments. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas de merci à avoir, c'est... On essaye d'éviter les applaudissements dans les assemblées générales. On essaye d'éviter les merci aussi, parce que sinon, ça prend du temps beaucoup. C'est pas pour être productif, je te rassure, mais c'est parce que... Parce qu'on est tous co-responsables de ce qui nous arrive et qu'on essaye de... Vraiment, à partir d'une prise de conscience et d'un partage dans toutes les actions que vous faites, je pourrais vous dire merci à chacun. Merci d'être là. Et l'important, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Nous, sur nos selles, on a un peu des besoins. Sur Odèse, on a des besoins. Je pense qu'il y a des associations et des représentants d'associations ici, dans beaucoup de domaines, qui ont aussi des besoins en bénévolat, en attention, en argent, en fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qui émergent. Voilà. En renseignement, en écoute, en partage dans les familles, ici, avec les anciens aussi, à la pêche au savoir. Vous savez, dans notre engagement, nous, on peut pas faire autrement et on peut pas faire plus non plus que ce qu'on fait. On a déjà des emplois du temps bien chargés. En plus, la justice et la police, nous, et puis tous les services de l'État, pas que, ils nous perdent le courrier, ils nous envoient là-bas. Voilà quoi. Ils nous prennent nos voitures. Ils font comme ils veulent, quoi.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le chapeau pour les frais de justice et quoi d'autre? Il y a quelque chose que vous avez besoin sur le stade qu'on peut organiser, vous amener?
Mais ouais, il y a une liste de besoins si tu veux sur le site tant qu'il y aura des bouées. Mais au-delà de ça, je pense que ce dont on a besoin, c'est déjà d'une réunion comme ça. On a besoin de ça. On a besoin d'une éducation populaire, clairement. Et on a besoin. J'en parlais avec je sais plus qui, quelqu'un dans la salle, un professeur. Et je lui parlais le plus difficile en fait dans ce qui se passe aujourd'hui. Le plus difficile, je lui disais dans ce qui se passe aujourd'hui de ce mouvement social, c'est la question que tu poses. Alors j'imagine que c'est pour faire débat que tu poses cette question, donc je t'en remercie. Mais
ne regarde pas comme ça.
mais le plus difficile, c'est ça, c'est de se retrouver en face de quelqu'un qui te dit ouais, un petit village indien. Et en fait, cette question-là, elle est difficile parce que c'est à chacun de se dire qu'il est un soldat du capitalisme. Et que c'est lui, par ses actes quotidiens, dans sa façon de ne rien gérer de ce qu'il produit. Et je lui disais à ce prof tout à l'heure, par exemple, je parlais des toilettes sèches, on vient jusqu'à gérer ta merde aujourd'hui. Tu tires la chasse et il y a un mec qui va construire une station d'épuration, etc. On prend rien en charge de ce qu'on fait, nous. Tu vois, de ce qu'on produit comme déchets, etc. Ça, des déchets, alors là, vas-y. Hein. À blinder les déchets, on en fait. Mais est-ce qu'on en... Tu les mets dans la poubelle, et la poubelle, elle repart, le lendemain, elle est vide. Oh, ben, c'est bon. Mais j'en remets d'autres, puisqu'à chaque fois, elle est vide. Mais j'en remets d'autres. Et puis, ça recommence.
Sauf que celui qui reçoit le tas à la fin, il dit surtout pas au fond de mon jardin. Hein.
Ah, voilà.
Au fond du jardin du voisin, mais pas au fond de...
Voilà. Et là, tout d'un coup, il est un lutteur, celui-là. Enfin, bref. Et le plus dur, c'est ça. C'est de réussir à se changer soi-même, en fait. Tu vois? Se changer soi-même. Je te dis pas que je suis sorti du système, je dis pas ça. Mais j'ai été prof, moi. Et je formais des apprentis agricoles. J'avais des gamins qui avaient 16-17 ans et qui arrivaient là, en BEP ou en CAP, ils savaient même pas lire. Tu vois? Et je les prenais 2 heures toutes les 3 semaines. Et c'était difficile pour eux d'apprendre que Hitler avait été à un moment donné le chef de l'Allemagne et Staline le chef de la Russie. Quoi. C'était impossible pour eux, tu vois. Et ils arrivaient à la fin de leur CAP et ils avaient leur diplôme ou ils l'avaient pas, tu vois. Ils l'avaient, admettons. Et ils allaient faire ouvrier agricole. Et après, certains allaient faire leur bac pro. Ils savaient toujours pas écrire 3 lignes. Et ils allaient demander des aides aux JA, tu vois, les jeunesses agricoles. Ils allaient balancer des OGM partout, et ils savaient toujours pas lire. Et moi, je me la pétais avec un salaire de prof, tu vois. Et je dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Et mec, j'étais prof de français, quoi. Je dis, mais attends, j'arrête. Et je me suis mis charpentier. Pourquoi je suis devenu charpentier? Reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était parce que j'avais compris que j'allais jamais pouvoir aller à la banque, parce que j'avais que des CDD, pour demander à ce qu'ils me prêtent de l'argent pour faire une baraque. Et heureusement que j'ai pas pu avoir ces putains d'argent pour qu'ils me fassent, que je fasse cette baraque. Parce que je leur aurais emprunté 200 000 euros allègrement. Et je serais encore en train de les rembourser, ces 200 000 euros. Et il faudrait que j'aille bosser. Ben non, j'ai appris à faire des yourtes. Aujourd'hui, j'ai 2 yourtes sur un terrain chez un copain. Et je vais avec ma petite famille. Ça m'a coûté 5000 euros. Parce que j'ai su les faire. Mais je file des coups de main à tous les copains qui sont autour de chez moi. Et je leur construis leur maison. Voilà. Et ça, d'avoir appris à faire ça, à travailler, à savoir faire quelque chose au lieu de ramener ma gueule dans cette classe, tu vois, avec des gamins à qui je savais strictement, je leur servais à rien du tout, tu vois. Et bien, je me suis changé petit à petit. Voilà. Je me suis changé. Et de se changer, bien, tu t'aperçois que tu ouvres des possibles gigantesques, en fait. Des possibles de fous. Qui sont tellement fous, d'ailleurs, que les mecs qui vivent sur les ZAD aujourd'hui, moi, c'est vraiment une conclusion que j'ai faite. C'est que les mecs, ils ont pas l'eau, et les femmes, ils ont pas l'eau, ils ont pas l'électricité, ils ont pas la machine à laver, ils ont pas internet, tout ce que tu veux. Ils ont aucun confort matériel, mais de vivre ensemble, ils ont un confort social qui aujourd'hui, est inquantifiable. C'est-à-dire que tu peux te passer de tout à partir du moment où tu as ce confort-là, tu vois. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre, en fait. C'est qu'au lieu de rentrer chez toi et d'allumer ta téloche tout seul comme un con, eh bien là, t'es avec des potes et tu construis des cabanes qui rassemblent à rien, mais au moins t'es avec des potes et tu fais la fête et tu construis ce truc-là, petit à petit. Et t'es un humain qui vit en société, qui apprend à faire des choses, avec des gens qui descendent, tu vois, du vallon, qui amènent du pain, etc. Et tu apprends à faire ça, voilà. Et t'es libre. Tu vas pas te lever demain parce qu'il y a un patron qui va te dire, putain, mais faut que tu sois là. Tu es libre. La liberté, bordel, la liberté, quoi. Arrête de te lever le matin à 7h, tu vois, pour aller bosser, récupérer 3 thunes. T'es libre. C'est un truc qu'on n'arrive même pas à le comprendre. On n'y arrive même pas. Et voilà. Comment changer le monde commence par se changer soi-même.
Et juste pour conclure, enfin pour rajouter à ta question, je pense que s'il y a des choses qui sont bien distribuées sur le territoire, c'est les grands projets inutiles et imposés. On a forcément un près de château.
Il y a des endroits quand même où les yourtes n'arrivent pas à rester en place.
Et ouais, mais ça fait partie. Tu fais une ZAD pour une yourte.
La ZAD de Pouille, c'est pour quand?
Ah, c'est vrai, c'est, ça fait partie de ce système d'oppression. Il faut avoir la petite maison comme il faut. C'est fou ça.
Mais tu pourrais quand même envoyer la liste des besoins pour aller distribuer, peut-être que chez quelqu'un se trouve quelque chose. Que
bien sûr, ouais.
Dans un grand grenier.
Ben c'est tant qu'il y aura des bouilles, tu vas sur le site, tant qu'il y aura des bouilles. Et là, il y a la liste de besoins. Et
sinon, de façon très concrète, en ce moment, il se met à faire froid et à pleuvoir. Donc bottes en caoutchouc, poêle à bois, tuyaux de poêle. Et couverture, duvet,
tôle, planche, palette.
Matériel d'isolation, matériel de construction, légumineuse, genre de la bouffe qui se garde, la bouffe végétarienne.
Outils aussi.
Voilà, bien.
D'ailleurs, si quelqu'un a un chauffe-au bois,
un chauffe-eau qui fonctionne au bois.
Qui fonctionnerait au bois.
Alors ça, il faut se fédérer avec les luttes du côté du Jura et de l'Alsace, Lorraine, là-haut, parce qu'ils ont beaucoup de bois et ils ont beaucoup de chauffe-eau au bois.
D'accord.
Et qu'ils foutent en l'air souvent pour remplacer, et il n'y a qu'à foutre une petite brasure et c'est reparti. Voilà.
D'accord.
Donc si vous connaissez des filières du côté du Jura ou de l'Alsace, bon, ça fait des kilomètres peut-être, mais c'est vrai que c'est un endroit où il y a beaucoup de chauffe-eau.
Il faut faire un achat gonflé.
Là,
je ne sais pas parler, enfin, il y avait un appel pour la semaine aussi, là. C'est, ah, oui. Je ne sais pas s'il y a une prochaine date une date prévue un peu qui rassemblerait, qui...
je ne sais pas.
Enfin, parce que ça manque en fait, de ça, là, qu'il y a eu cette semaine de prévue, et alors je ne sais pas ce qu'elle donne, s'il y a de...
Oui.
Mais sans qu'il y ait une journée où bah, ceux qui bossent la semaine, hein, et voilà, d'avoir un truc pour pouvoir rassembler comme il y a pu y avoir. Et...
Ouais, non, j'ai pas de.
Ouais.
Il n'y a pas d'impôt là-dessus.
C'est vrai qu'il n'y a pas une date. Enfin, il y avait Saint-Azad, là, cette semaine que tu parles, ouais, qui est essentiellement des ateliers de remise en culture, quoi. Effectivement, il n'y a pas de. Ça se discutait, c'est pas encore tranché.
Alors, sur ce qu'on peut faire aussi, moi je vais revenir parce que ça me... J'aime bien quand cette question, j'aime beaucoup cette question de qu'est-ce qu'on peut faire, parce que j'ai beaucoup d'exemples, parce que j'ai beaucoup voyagé à pied, à cheval, en voiture, partout, depuis le Larzac, hein, depuis le Larzac. Moi, ce qui s'est passé sur le Larzac quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'était un éveil, une conscience formidable... qui s'est éveillé en moi, pleine d'imagination, pleine de rêves. Et aujourd'hui, je retrouve cette capacité à rêver. Donc, en discutant avec les uns les autres comme ça, hop, ça fait émerger des idées. Et j'ai demandé à Guillaume Cros, en portant la parole de tous ceux qui sont sur la place, qu'on ait une plateforme informatique avec ceux qui ont des heures de délégation, de syndicat ou quoi, de voir un moyen de s'organiser, pour que, en fonction des besoins qui sont exprimés, on n'ait pas à ventiler sur tout le monde et que pas trop de monde s'y retrouve dans ce qu'il faut apporter ou que tout le monde amène la même chose et que la banque soit submergée et tout ça, qu'on arrive à construire un outil qui puisse servir avec une banque de données de chacun, ce qu'il peut apporter en tant que capacité ou compétence ou matériel qu'il a disponible ou à donner ou à prêter pour une tâche définie, avec ou sans, parce qu'on a des problèmes de logistique, de transport, de poste à souder, des fois pas besoin on n'a pas besoin d'un poste à souder là-bas, mais des fois on a un truc à souder, ça irait bien de, voilà, avec un outil qu'on puisse souder, c'est mieux que d'attacher avec trois ficelles, ça va casser là, ça va tout déballer. Donc tout ça c'est une réflexion qui est en cours. Je pense que sur l'Aveyron, comme on a un grand territoire et que c'est difficile de se rencontrer physiquement entre Sainte-Afrique, le plateau, ici, l'ouest Marcillac et nous, nos cèdres, je pense qu'on pourrait avoir des bénévoles qui ont envie de porter un projet comme ça et qu'on puisse lister chacun ce qu'il peut donner, ce qu'il a en trop ou ce qu'il a envie de donner ou de partager ou ses compétences ou à l'hôtel, moi j'ai un voisin là, il a plein de savoirs dans tel domaine, sur la plantation des arbres, sur ci, sur là, où j'ai vu telle expérience, et qu'on arrive à construire un endroit. On a une radio qui est maintenant une radio tamrodaise, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Alors si on la laisse à ceux qui sont tenants du titre et qui fabriquent leur salaire, il n'y a rien qui va bouger, hein. C'est-à-dire qu'ils ont inventé un robot, il a eu le grand prix de l'innovation, ils ont inventé un robot bio pour les maraîchers bio, avec des roues comme ça, l'engin, il marche comme ça, il faut au moins 2000 hectares pour l'amortir. Parce que les maraîchers, ils en ont tous besoin en même temps, donc on peut pas le mettre en cuma. Et voilà, c'est ce que j'ai vu au forum régional de l'économie sociale et solidaire. Donc si on laisse les outils comme ça dans les mains de ceux qui fabriquent leurs salaires, ben on va continuer à fabriquer des salaires. Dans le social, c'est pareil. Par contre, s'il y en a vraiment, j'ai entendu parler d'un projet de maison commune et j'ai participé moi à la Mouline, à des expériences vraiment formidables de réseau sortir du supermarché, de réflexion en tout cas en commun, de comment on s'organise pour créer des groupements d'achat, pour faire ci, pour faire ça. En même temps, c'est du lien social où on prend aussi plaisir. Et là, on n'est pas des Indiens, on est des Zoulous, ou des Gitans, ou des Aveyronais, qui se réunissent, qui mangent ensemble, et qui partagent un moment de leur vie, et qui peuvent se donner les moyens aussi de mettre en collectif, grâce, je ne sais pas comment le qualifier, parce que l'outil informatique, il y a des questions quand même à se poser, mais il existe, on peut s'en servir, d'avoir et aussi la gestion de personnes qui peuvent conduire un véhicule, voilà, il peut y en avoir des multiples. Après, du moment qu'on a des outils et qu'on apprend un peu à quoi ils servent, eh ben hop, ça, c'est vivant, quoi, ça fait du... comme la levure, hein, comme le lait, comme le truc, c'est hop, c'est, voilà, on ne sait pas normalement avant de le goûter le fromage qu'on fait. Aujourd'hui, les industriels, ils savent, hein, le produit fini, ils le connaissent. Normalement, quand on fait un fromage, ou quand on élève un cochon, ou quand on fait de la charcuterie, on ne sait pas tant qu'on n'a pas goûté le produit, ou du pinard, si c'est du pinard, on ne sait pas le goût qu'il va avoir. Il n'y a que quand on le goûte le produit qu'on peut l'évaluer. Ensemble, c'est mieux encore, parce que chacun son appréciation, chacun son palais. Si on est capable de faire ça, ben, le projet politique, il est réalisé, hein. Je pense qu'il y en a une grande partie du chemin qui est fait, et ce soir, on a fait un pas ensemble.